RFI Midi, la suite, il est 9h à Port-au-Prince, 13h en temps universel. Une demi-heure consacrée à l'actualité du continent américain et à Haïti où les gangs sèment toujours la terreur. La capitale et ses environs sont toujours sous la coupe des groupes criminels asphyxiés et les sanctions de l'ONU contre les chefs de gangs n'ont pas d'effet. Le constat vient des Nations Unies elles-mêmes. Comme chaque jour, l'actualité des Outre-mer. Benoît Ferrand, vous nous parlerez tout à l'heure d'un record annoncé concernant la saison cyclonique dans l'Atlantique.
Oui, les premières données de prévision seraient, paraît-il, totalement inédites et donc très inquiétantes. C'est ce que nous dira tout à l'heure Franck Aristide de la Première Guadeloupe.
Benoît Ferrand, on vous retrouve dans une vingtaine de minutes. Et puis, on vous fera aussi découvrir tout à l'heure un nouveau rendez-vous sur RFI. L'actualité américaine, la campagne électorale en chanson avec des morceaux mythiques des États-Unis.
RFI Midi.
Mais avant tout cela, on fait le point sur l'actualité internationale. Bonjour Stéphane Genest.
Bonjour Anne, bonjour à toutes et à tous.
Les États-Unis continuent de mettre la pression sur Israël.
La Maison-Blanche appelle Israël à mettre rapidement en œuvre la livraison d'aide promise à Gaza. Une injonction quelques heures après la discussion téléphonique entre Joe Biden, le président américain, et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Échange durant lesquels Joe Biden a évoqué pour la première fois la possibilité de conditionner l'aide américaine à l'État hébreu. Et après Joe Biden, c'est Donald Trump qui infléchit sa ligne de soutien inconditionnel à Israël. Pour le candidat républicain à la présidentielle américaine, l'État hébreu doit remporter la guerre au plus vite et Israël perd la guerre de la communication à Gaza. Voilà ce qu'a déclaré Donald Trump. Il réclame un retour rapide à la paix, Marine de la Moissonnière.
Donald Trump reste un allié fidèle d'Israël, mais lui demande d'en finir avec la guerre au plus vite. C'est ce qu'il a déclaré hier lors d'une interview à un média américain. Pour l'ancien président, le conflit dure depuis trop longtemps.
Finissez-en, faites la paix et arrêtez de tuer des gens. C'est ce que je leur dis, tout simplement. Il faut qu'ils terminent ce qu'ils ont commencé, mais ils doivent le faire vite. Il faut en finir et revenir à la normalité. Chaque soir, ils diffusent des vidéos de bâtiments qui s'effondrent. Et les gens pensent qu'il y a des gens à l'intérieur. C'est pour ça qu'Israël est en train de perdre la guerre de la communication.
Des mises en garde qui ne sont pas nouvelles. Dans un entretien accordé à la presse israélienne la semaine dernière, Donald Trump avait plus ou moins dit la même chose. Aujourd'hui, le ton est plus véhément, alors que le parti républicain demeure, lui, un soutien indéfectible d'Israël. Reste à savoir comment les prises de position de Donald Trump vont être reçues par ses électeurs, notamment la communauté évangélique.
Marine de la Moissonnière et la guerre à Gaza qui fait aussi réagir en Europe, puisque la Pologne réclame à l'État hébreu une enquête criminelle pour meurtre après la mort de 7 humanitaires tués, dont un Polonais dans la bande de Gaza par des frappes israéliennes ce lundi soir. L'armée israélienne qui ce vendredi s'en explique, elle affirme avoir visé un homme armé du Hamas.
Et ce conflit, on le sait, a des conséquences économiques. L'une d'entre elles, et elle est loin d'être anecdotique, c'est le boycott de McDonald's par de nombreux pays du Proche-Orient.
Le géant du fast-food qui subit une campagne de boycott de la région de la part des pays musulmans depuis que le patron de la franchise en Israël a consenti des tarifs particuliers aux soldats israéliens. Pour calmer la gronde et redorer son image, l'enseigne de restauration rapide américaine a donc pris la décision de racheter tous ses restaurants en Israël. On en parle avec vous, Nathanaël Vitron, du service économie de RFI. Bonjour Nathanaël.
Bonjour.
Puisqu'au total, Nathanaël, ce sont 225 restaurants McDonald's franchisés confiés à une entreprise israélienne qui ont été rachetés par la maison mère américaine.
Oui, l'empire McDonald's s'est bâti grâce à son réseau de franchises. Plus de 90% de ses restaurants dans le monde sont gérés par des franchisés. En Israël, c'était le groupe Alional Limited qui faisait prospérer la marque aux Arches Jaunes depuis plus de 3 décennies. Mais à l'automne dernier, quelques jours après l'attaque du 7 octobre, McDonald's Israël communique sur un don de plusieurs dizaines de milliers de repas à l'armée israélienne. Au même moment, Benjamin Netanyahou ordonne le blocus de Gaza. Les ONG avertissent déjà à l'époque d'un risque de famine dans l'enclave palestinienne. Le contraste est terrible. Cette initiative, prise sans l'aval de la maison mère, provoque un mouvement de boycott dans tout le Moyen-Orient. Moyen-Orient. Début janvier, le PDG de McDonald's reconnaît un impact significatif sur son chiffre d'affaires dans toute la région, mais aussi en France, en Malaisie, en Indonésie. Il tente d'éteindre l'incendie en rappelant que ses restaurants dans les pays musulmans sont aussi opérés par des entrepreneurs locaux, mais rien n'y fait. Avec ce rachat pour un montant gardé secret, McDonald's reprend la main aussi sur la communication de sa branche israélienne.
Le décryptage de Nathanaël Vitran du service économie de RFI. Un mot de l'économie américaine à présent, puisque le département du travail vient de publier son rapport mensuel pour mars et les chiffres sont plutôt bons. Ce sont 303 000 emplois qui ont été créés le mois dernier aux États-Unis. Le taux de chômage du pays qui est donc à la baisse, il passe dorénavant à 3,8%.
On en vient maintenant, Stéphane, à cette tendance alarmante. La planète a encore perdu en surface de forêt vierge tropicale l'équivalent de 10 terrains de foot par minute l'année dernière.
Un niveau toujours aussi élevé, hein, malgré une amélioration, il faut le dire, au Brésil et en Colombie, où le nombre d'arbres coupés a baissé drastiquement grâce à l'action politique. La déforestation qui a donc baissé de 39% en Amazonie brésilienne entre 2022 et 2023. Alors des résultats positifs après les records de déforestation sous le gouvernement de Jair Bolsonaro. Mais il faut relativiser et remettre ces dynamiques dans leur contexte, Sarah Cozzolino.
Malgré la bonne nouvelle pour l'Amazonie, le Brésil est toujours le pays qui perd le plus de forêts primaires chaque année. Les chiffres de 2023, publiés par l'ONG Global Forest Watch, pointent de mauvais résultats pour d'autres biomes brésiliens. Mariana Oliveira gère le programme des forêts du World Resource Institute.
Le Cerrado et le Pantanal en particulier ont enregistré une augmentation de la déforestation. Et c'est une tendance que l'on observe ces dernières années.
Les principales causes de déforestation au Brésil sont liées à l'exploitation agricole, notamment le soja ou l'industrie animale. La préservation de la forêt devrait être vue comme un investissement, selon Mariana Oliveira.
Il faut inclure la perte des arbres comme un problème de l'économie et de la politique intérieure. Cela devrait être une priorité pour les dirigeants, car c'est notamment connecté aux questions de sécurité alimentaire et hydrique.
Selon le rapport de l'ONG, la déforestation dans le monde a augmenté, principalement en Bolivie, au Laos et au Nicaragua, mais aussi en raison des incendies de forêt au Canada. Il reste donc encore du chemin pour atteindre l'objectif zéro déforestation d'ici 2030, comme défini à la COP26 de Glasgow en 2021. Sarah Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
L'environnement et le changement climatique qui préoccupent aussi le gouvernement français. Entre les inondations de ces derniers jours ou encore la sécheresse dans pratiquement tout le pays, les autorités cherchent les moyens de s'adapter à ce réchauffement climatique. Eh bien, le ministre de l'Environnement a présenté une carte où certaines zones côtières vont vite devenir inhabitables face à la progression des océans. Christophe Béchu qui présentera aussi dans quelques jours un plan d'adaptation au changement climatique. Il a laissé entendre que des hausses de cotisations d'assurance seraient décidées. En France, où Emmanuel Macron fait un nouveau pas vers la responsabilité de la France lors du génocide au Rwanda, nouvelle étape de franchie par le pays à deux jours des 30 ans de ce massacre. Le président français qui estime que les autorités françaises et leurs alliés auraient pu l'arrêter si elles en avaient eu la volonté. Fin de citation. Emmanuel Macron qui s'est exprimé sur un tout autre sujet ce vendredi midi en marge d'un déplacement dans une école parisienne. Le chef de l'État a réagi aux deux agressions commises contre des collégiens ces derniers jours. Un jeune garçon est entre la vie et la mort, une autre jeune fille, elle, vient de sortir du coma. Le président qui appelle à protéger l'école d'une forme de violence désinhibée.
Nous sommes dans une société de plus en plus violente et on a une forme de violence désinhibée chez nos adolescents et parfois de plus en plus jeunes. Il y a plusieurs facteurs à ce qui est en train de se passer. On a d'abord de plus en plus de problèmes qui commencent dans les familles. Regardez les enfants qui sont en situation difficile. Ils sont souvent des enfants qui soit viennent de familles dites monoparentales, soit sont à l'aide sociale à l'enfance. Et donc là, on doit mettre le paquet pour beaucoup mieux accompagner les familles et dans certains cas les responsabiliser. Ensuite, on va avec l'éducation nationale aussi développer des systèmes de préalerte, c'est ce qu'on est en train de travailler, qui vont permettre, quand on identifie des jeunes qui commencent à être violents, à proposer aux familles eh bien, de les mettre soit dans des établissements qui les éloignent, voire dans les internats qu'on a mis en place. Et puis on va continuer de renforcer la réponse pré-pénale et pénale pour certains jeunes.
Le président français Emmanuel Macron en marge d'un déplacement dans une école parisienne ce vendredi matin.
Merci Stéphane Genest. On vous retrouve à 15h, temps universel, pour un prochain journal.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Et nous, on va parler de la situation en Haïti où les violences sont toujours quotidiennes dans la capitale et dans la zone métropolitaine. Et dans ce contexte, un constat d'impuissance hier. Les sanctions de l'ONU contre les chefs de gang n'ont quasiment aucune conséquence. Des experts des Nations Unies parlent d'un impact extrêmement limité à Achim Leopold.
Oui, Anne. En octobre 2022, le Conseil de sécurité de l'ONU avait décidé d'appliquer des sanctions contre le chef de gang Jimmy Cherizier, alias Barbecue. Les Nations Unies l'accusent d'avoir menacé la stabilité du pays et d'avoir violé des droits humains. Il est entre autres considéré comme un des responsables du massacre de la Saline où 71 personnes ont été tuées. C'était en 2018. Des sanctions individuelles qui incluent l'interdiction de voyager et le gel des avoirs et qui ont été ensuite étendus à 4 autres chefs de bande criminelle. Mais plus d'un an après la mise en place de ces mesures, force est de constater que leur impact est bien limité. Selon un rapport d'experts de l'ONU, les chefs de gang continuent de se procurer des armes et d'étendre leur contrôle sur le territoire haïtien, notamment celui de la capitale. Ils parviennent aussi à recruter des nouveaux membres.
L'ONU admet d'ailleurs aussi un autre échec, Achim, échec de ces mesures censées combattre les violences en Haïti, c'est l'embargo général sur les armes qui lui non plus n'a pas produit d'effet.
Oui, le processus n'est qu'à ses débuts et il manque de ressources pour contrôler l'embargo. C'est ce que souligne le rapport d'experts de l'ONU. Selon ses spécialistes, les gangs arrivent sans problème de se procurer des armes en provenance des États-Unis et de la République dominicaine. Leurs arsenaux sont de plus en plus sophistiqués avec des armes de poing, des fusils semi-automatiques et même des mitrailleuses légères. Toujours selon l'ONU, leur puissance de feu dépasse aujourd'hui celle de la police, ce qui explique pourquoi les autorités demande le déploiement d'une force internationale afin de combattre les gangs et de regagner le contrôle du territoire.
Constat d'échec donc de la part des Nations Unies, l'ONU, Christophe Paget, qui évoque maintenant un risque de génocide en Haïti.
Plus nous tardons à trouver une solution, plus la population haïtienne est exposée au risque d'un génocide, a dit hier Justin Biard, le représentant permanent d'Haïti auprès de l'ONU lors de la 55e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Il faut empêcher que cette crise devienne une tragédie inscrite dans les pages de l'histoire comme un échec de la communauté internationale. Une intervention à lire sur le site d'Alter Press.
Et pendant ce temps, la situation politique ne se débloque pas. Christophe, le Conseil présidentiel, censé prendre la suite du Premier ministre Ariel Henry, n'a pas encore commencé à travailler.
Mercredi soir, le Conseil des ministres avait adopté le projet de décret sur la création et le fonctionnement de ce Conseil présidentiel. Mais voilà, ceux qui ont désigné des représentants dans ce Conseil veulent maintenant, explique le Nouvelliste, harmoniser le projet de décret et l'accord politique. Ce qui implique des modifications dans le document déjà approuvé en Conseil des ministres. On a l'impression que les pairs, parrains et membres du Conseil préfèrent s'adonner à la broderie fine plutôt qu'à la chirurgie de guerre. Agissez, agissez, prenez vos responsabilités, exhorte Franz Duval dans son éditorial.
Impasse politique, insécurité croissante et malgré cette situation catastrophique, les Haïtiens sont appelés à rester dans leur pays. Ne prenez pas la mer, a dit hier le secrétaire à la sécurité intérieure des États-Unis. Message on ne peut plus clair d'Alejandro Mayorkas. Dans une interview au Miami Herald, il assure que les États-Unis suivent la situation de près. Mais il explique aussi que tous ceux qui arriveront illégalement seront renvoyés en Haïti. Écoutez.
Permettez-moi d'être clair. Quand nous interceptons des Haïtiens en mer, nous les ramenons dans leur pays le plus rapidement possible. C'est d'ailleurs ce que nous avons fait ces dernières semaines et nous continuerons à le faire. Nous continuons à appliquer la loi. Et dans le même temps, nous avons mis en place des chemins légaux pour arriver aux États-Unis selon nos lois. Donc le message est très clair. Nous n'avons pas pour le moment l'intention de redésigner Haïti au statut de protection temporaire.
Le statut de protection temporaire, c'est un type de statut d'immigrant pour les personnes vivant déjà aux États-Unis. Il n'accorde en fait ni statut légal permanent, ni citoyenneté, ni statut d'immigrant permanent. Et pour les Haïtiens, il doit s'achever le 3 août prochain. Les États-Unis n'envisagent pas pour l'instant de le prolonger. On va continuer à parler d'Haïti parce que comme chaque premier vendredi du mois, on retrouve notre partenaire, le site Haïbo Post, média de référence en Haïti, connu pour la qualité de ses enquêtes. Avec nous aujourd'hui, Fenel Pellissier. Fenel, vous signez un long article très documenté sur les dépenses de l'État pendant la pandémie de Covid. Il y avait eu un audit, il y a 2 ans déjà, de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Un rapport mettait en cause une demi-douzaine d'institutions publiques, mais depuis, rien n'a bougé.
Au fait, 2 ans après la publication de ce rapport, la Cour n'a rien encore prononcé sur cette affaire. Maintenant, il n'y a toujours aucune avancée dans cette affaire, ce qui veut dire que la Cour n'a pas encore pris une décision. La Cour va probablement rendre son arrêt de libéré ou saisir le cabinet d'instruction par l'entremise du commissaire du gouvernement pour la suite de l'affaire. Mais jusqu'ici, il faut dire que rien n'est encore fait.
Donc pour l'instant, il n'y a pas eu de décision prise. D'importantes sommes d'argent ont été détournées ou en tout cas dépensées sans justification. La Cour pointe du doigt le ministère de la Santé, mais aussi le Fonds d'assistance économique et sociale. 70 millions de gourdes ont été dépensées sans justification suffisante ou carrément grâce à une justification irrégulière. Et l'institution a failli, notamment dans la distribution de kits alimentaires.
Effectivement, il y a au moins deux ministères qui sont indexés. Ces deux ministères-là sont impliqués parce que tout simplement, et ce sont de là qui ont dépensé beaucoup plus d'argent. Donc, pour le cas qui concerne le FAES, le Fonds d'assistance économique et sociale, donc le FAES, dans un premier temps, devrait accompagner les ouvriers des usines textiles, également des transferts de cash à travers le service Mon Cash. On a constaté lors des prestations du FAES, il y a certaines irrégularités, il y a des dépenses qui ne pouvaient pas justifier. Et donc, en quelque sorte, la Cour a conclu plus de 70 millions de gourdes qui ne pouvaient pas être justifiées dans le rapport.
Et vous écrivez également, Fenel Pellissier, que la situation d'état d'urgence, donc qui avait été décrétée au début de l'année 2020 par le Premier ministre de l'époque, a favorisé la corruption.
C'est qu'il faut souligner. L'article 13 de la loi du 15 avril 2010 fait obligation au gouvernement de soumettre au corps législatif, dans les 3 mois qui suivent la fin des états d'urgence, un rapport sur la catastrophe et les différentes mesures adoptées. Or, à l'époque, le Parlement était caduc, ce qui avait donné encore plus de pouvoir à l'exécutif d'agir en absence d'instruction de contrôle. Autre chose, c'est qu'il faut souligner, l'état d'urgence ne respecte pas souvent les règles de passation du marché. Justement, c'est un processus qui favorise la corruption. En quelque sorte, il permet d'effectuer des dépenses rapidement sans passer par les procédures normales. En quelque sorte, il n'y avait pas vraiment d'instituts de contrôle qui ont pris des décisions d'effectuer et certains contrôles sur ce qu'avait fait l'exécutif en quelque sorte.
Merci Fenel Pellissier. Votre article « Dépenses de l'État haïtien non justifiées liées au Covid-19 » est à lire sur le site aibopost.com.
RFI à Gonaïves, 90.5 FM.
Aux États-Unis, c'est le coup de fil entre le président américain Biden et le premier ministre israélien qui fait la une des journaux, Christophe Paget.
Les États-Unis haussent le ton après la mort d'humanitaires, écrit The Hill. 7 humanitaires, dont 6 étrangers, tués lundi à Gaza par une frappe israélienne, ce qui a secoué le président. Son coup de fil hier au premier ministre israélien a été tendu, rapporte le New York Times, qui explique que la Maison-Blanche a menacé de conditionner son soutien futur à Israël à la manière dont le pays répondrait aux inquiétudes du président concernant les victimes civiles et la crise humanitaire à Gaza. Biden prévient Israël, résume le Washington Post.
Le communiqué de la Maison-Blanche rendant compte du coup de fil a été le plus dur en 6 mois de guerre.
Selon le New York Times, qui note quand même que les responsables de la Maison-Blanche ne sont pas allés jusqu'à dire que le président pourrait limiter la fourniture d'armes à Israël s'il n'était pas satisfait. Par contre, le Congrès a un droit de regard sur les ventes d'armes américaines aux alliés, rappelle le quotidien. Et les démocrates au Congrès sont en train de voir s'ils vont utiliser ce levier pour faire entendre leur voix concernant les victimes civiles à Gaza et faire pression sur le président Biden sur les conditions de l'aide américaine à Israël.
À lire aussi cette enquête du New York Times sur les agressions subies par les migrants passant par la région du Darién, une zone de marais et de forêt à la frontière entre la Colombie et le Panama.
Selon l'enquête, presque toutes les attaques se déroulent côté panaméen. Depuis 6 mois, elles ont énormément augmenté avec une fréquence et des modes opératoires rarement vus en dehors des zones de guerre. Les victimes sont battues, leur nourriture volée et souvent, souligne le quotidien, des dizaines de femmes sont violées lors de chacune de ces attaques. Plusieurs organisations humanitaires Syracuse accuse la police des frontières panaméennes de laisser faire. Le New York Times remarque que ces attaques adviennent alors que des dirigeants panaméens se plaignent de plus en plus du coût financier et environnemental que la migration infligerait au pays.
Christophe Paget, votre revue de presse à retrouver sur internet rfi.fr. On va parler à présent du Pérou où le Rolex Gate continue de faire des vagues. L'achat supposé non déclaré de montres de luxe par la présidente. Dina Boluarte est désormais visée par une enquête pour enrichissement illicite. Ses bureaux, son domicile ont été perquisitionnés samedi dernier. Les enquêteurs n'ont rien trouvé et Dina Boluarte doit être entendue aujourd'hui pour s'expliquer. Amanda Chaparro.
4 Rolex, des bijoux Cartier, le tout estimé à plus de 500 000 dollars. L'affaire dite du Rolex Gate ne cesse de prendre de l'ampleur au Pérou. Il y a aussi des virements bancaires suspects de plusieurs centaines de milliers de dollars que la présidente aurait perçus. Dina Boluarte garde le silence sur le fond de l'affaire, mais elle devra s'expliquer aujourd'hui devant le parquet. Lors de son unique allocution devant la Nation samedi dernier, elle se posait en victime d'une machination.
La présidente est attaquée systématiquement. Assez d'utiliser certains médias pour générer le chaos et l'incertitude. Assez de vouloir créer des écrans de fumée et un complot contre le pays.
C'est dans ce contexte que le Congrès, l'unique chambre parlementaire, a donné son vote de confiance au gouvernement mercredi. L'opposition dénonce un pacte qualifié de corrompu entre un gouvernement fragilisé d'une part et un Congrès dominé par la droite et l'extrême droite, de pouvoir complètement désavoué. Il recueille plus de 85% d'opinions défavorables, alors que les Péruviens sont préoccupés par une économie en berne et une insécurité grandissante.
Amanda Chaparro, Cusco, RFI.
Le journal de l'Outre-mer.
Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour Anne.
Une activité record, c'est ce qu'annoncent les premières prévisions concernant la saison cyclonique 2024 dans l'Atlantique.
Eh oui, malheureusement, les premières données de l'Institut américain AccuWeather sont purement et simplement inédites et donc forcément très inquiétantes. Franck Aristide de la Première Guadeloupe.
De 20 à 25 tempêtes tropicales contre 13 lors des prévisions de l'an dernier. Une dizaine pourraient devenir des ouragans contre 6 l'an dernier. Pire encore, plus de la moitié d'entre eux pourraient même être majeurs. Tous les indicateurs sont donc revus à la hausse pour la saison cyclonique 2024. Les spécialistes la qualifient même d'active, voire d'hyperactive. Ces chiffres sont les plus élevés jamais publiés depuis que les prévisions cycloniques existent, depuis 1981. Donc, c'est la Niña qui explique un tel niveau d'activité. Elle est de retour après quelques années d'absence en diminuant le cisaillement des vents sur le bassin atlantique. Ce phénomène météorologique favorisera la formation de cyclones. AccuWeather est le premier des instituts spécialisés en la matière à publier ces données. La semaine prochaine, ce sera au tour de l'Université du Colorado, de quoi permettre d'affiner encore un peu l'analyse. Mais d'ores et déjà, les spécialistes avertissent avec ces potentielles menaces majeure, l'Arc-Antillais doit se préparer. Il rajoute même qu'une saison record n'est pas impossible.
En attendant les cyclones, ce que personne évidemment ne souhaite, les vedettes tropicales devraient bientôt reprendre leurs allers-retours à travers la baie de Fort-de-France. Nous sommes bien sûr en Martinique. Sous l'égide de l'autorité Martinique Transport, son président David Zobda est au micro de Pierre-Yves Honoré.
Tout le monde a envie de reprendre. Les salariés, comme les chefs d'entreprise et nous-mêmes. Donc c'est un point de convergence. Il n'existait pas il y a une semaine. Aujourd'hui, c'est le cas. Donc on dit que quand il y a une volonté, il y a un chemin, mais le chemin, nous allons le trouver. Et je veux donc dire aux usagers qui sont au centre de nos préoccupations, c'est pour eux que nous sommes là, c'est pour eux que nous mettons en place ce transport-là. Et il est normal que, d'abord, ils ne soient pas contents, ils le fassent savoir par le biais de leurs représentants, puisqu'il y a deux associations d'usagers qui sont très très présents autour de la négociation, mais ils ont le droit aussi d'exiger de Martinique Transport un transport de qualité. Et c'est tout à fait normal. Ce sont les mêmes navettes qui feront le transport pour l'instant. Alors, les bateaux sont en cours de révision, mais seront réutilisés le 10, si on repart le 10, ce sont les navettes qui seront réutilisées. Mais dans le cadre de la nouvelle délégation de service public, on partira sur les bateaux actuels, mais le nouveau délégataire a aussi pour objectif de modifier la flotte et d'avoir des bateaux neufs à terme.
Voilà, on peut également faire la liaison Fort-de-France, Trois-Îlets par la route, mais il paraît que c'est beaucoup plus long. Bon après-midi, bon week-end Anne, à lundi.
Merci Benoît Ferrand, on vous retrouve donc lundi, bon week-end.
RFI Midi.
Je vous propose maintenant de découvrir un nouveau rendez-vous proposé par RFI. Vous l'avez peut-être déjà entendu ce matin. Vous pourrez l'entendre tous les vendredis à cette heure-ci. Une plongée dans la campagne électorale aux États-Unis et le quotidien des Américains en musique avec les auteurs d'un livre encyclopédie Rock'n'Road Trip, 1000 chansons de l'Alabama au Wyoming. Aujourd'hui, l'un de ses auteurs, donc Laurie Kenton, nous parle de la capitale avec Julien Coquel-Rohem.
Bonjour Laurie.
Bonjour.
Comment ne pas débuter cette balade musicale par une escale dans la ville façonnée pour et par le pouvoir, la capitale des États-Unis, Washington.
Symbols of democracy pinned up against the coast. Our house of bureaucracy surrounded by a moat.
Washington DC de Jill Scott Heron, DC pour District of Columbia. Laurie, la capitale américaine est un territoire au statut très particulier.
Oui, c'est une toute petite surface qui a été prise à la Virginie et au Maryland pour y implanter la capitale fédérale depuis 1800, donc ça n'existe pas au début. Et puis aujourd'hui, il y a un peu moins de 700 000 habitants, donc c'est pas énorme. Et pourtant, on y trouve le pouvoir fédéral, la Maison Blanche, la Cour suprême, le Congrès sur Capitol Hill et aussi des institutions internationales comme le FMI par exemple. Et faut pas oublier qu'il y a de nombreux musées à Washington qui attire chaque année des millions de touristes, à la fois américains mais aussi étrangers. Et puis, bah, des tas de monuments historiques comme le fameux mur où figurent les noms des soldats morts au Vietnam, qui est un lieu de pèlerinage à la fois pour les proches mais aussi pour les amis, comme un certain Bruce Springsteen dont un des batteurs n'est jamais revenu du Vietnam. Alors, Jill Scott Heron parle ici de Ball of Contradictions et de Mass of Irony. C'est une chanson de 1982 qui aborde tous nos thèmes d'aujourd'hui, à la fois le pouvoir, le tourisme, la pauvreté et la violence armée.
Et aujourd'hui, en 2024, Joe Biden et Donald Trump ont un rapport très particulier à Washington.
Ah oui, Joe Biden, lui, il y a passé 50 ans. Il n'y dormait pas, hein, mais il a été sénateur, vice-président, donc il y a passé beaucoup de temps. Il n'était jamais de Washington, c'est-à-dire qu'il prenait le soin de rentrer à Wilmington, dans le Delaware, pour retrouver sa famille. Trump, lui, c'est un New-Yorkais pur jus, mais il adore détester Washington DC parce que c'est justement une ville de pouvoir, une ville d'entre-soi qui est contraire aux intérêts du vrai peuple que lui défend.
Washington, capitale pétrie de contradictions, mais aussi terre de contrastes, le mythique groupe de funk Parliament en parle bien.
Oh, what's happening, CC? They still call it the White House, but that's a temporary condition too. Can you dig it, CC?
Can you dig it, CC? Lyric, CC, c'est pour un surnom de Washington et le titre de cette chanson, Chocolate City.
Oui, il y a toujours une minorité noire relativement importante à Washington et elle arrive jusqu'au pic d'environ 70% dans les années 70, ce qui veut dire que la population blanche, elle va vers les banlieues et ça aboutit au résultat suivant, une ville noire et pauvre entourée de banlieues blanches et prospères, donc comme le dit la chanson, Chocolate City, Vanilla Suburbs. Mais la situation a changé aujourd'hui parce que depuis le début de notre siècle, il y a un phénomène de gentrification et les blancs sont revenus en nombre à Washington DC et le nombre des noirs diminue si bien que en 2020 on a presque autant de blancs que de noirs.
Washington, Lorix, c'est aussi une ville mal aimée, la ville bouc émissaire.
Bah oui, parce que comme elle concentre tous les pouvoirs, DC s'attire les jalousies et la haine. Dans les États fédérés, tout ce qui va pas, c'est la faute de ces bataillons de bureaucrates de DC qui passent pour déconnecter des réalités, qui comprennent pas nos vies à nous. Et cette opposition en fait, entre les États fédérés d'un côté et l'État fédéral, c'est une tension fondatrice du pays. Et son paroxysme, c'est la guerre de sécession au milieu du 19e siècle. Mais c'est aussi un problème qui continue d'empoisonner la vie politique aujourd'hui. Et qui dit pouvoir, dit argent et influence. C'est donc la ville des lobbies, par excellence. Ils sont concentrés dans K Street. Et d'influence à corruption, il y a un pas que franchissent assez rapidement certains artistes protestataires. Et c'est donc pas un hasard si on trouve à DC une scène punk particulièrement vigoureuse, sinon hardcore, dans les années 70 et 80.
Et le groupe Chicago qu'on entend évoque cette défiance dans un style, certes, un peu plus consensuel. Alors, Alors si je traduis, voilà ce que dit le premier couplet de cette chanson. Qui pouvons-nous vraiment croire? Qui se soucie vraiment de ce que nous vivons?
Et oui, c'était en 80, ça c'est l'année où Ronald Reagan conquiert la Maison Blanche, sur fond de mécontentement généralisé, avec un slogan appelé à faire florès, Let's make America great again.
Et qu'on entendra sans doute beaucoup pendant cette campagne 2024. Merci Laurie Canton. On vous retrouve vendredi prochain pour découvrir en musique un état clé du prochain scrutin, celui de Pennsylvanie. À la semaine prochaine.
Laurie Canton et Julien Coquelroem à retrouver chaque vendredi sur RFI jusqu'à la présidentielle aux États-Unis, donc jusqu'au mois de novembre. RFI Midi, c'est terminé pour aujourd'hui. Yann Eligouin était à la réalisation aujourd'hui. Merci à tous d'avoir été avec nous. Je vous retrouve lundi et d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée, un bon week-end. À l'écoute d'RFI, bien sûr. Tout de suite, Littérature sans frontières.